Vous écoutez RTL.
RTL.
Première radio de France. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, bienvenue dans La Curiosité. On est ensemble jusqu'à 22h et vous pouvez réagir au 3210 sur RTL.fr ou sur les réseaux sociaux avec le mot dièse La Curiosité RTL. Ça va Sidonie?
Ça va très bien Thomas, encore un gros rhume, mais bon,
ouais,
ça,
mais
ça
devrait revient, passer. La voix revient doucement quand même.
Bon, tant mieux. Allez, au programme, de l'Italie à la France, en passant par les Alpes, nous retournerons sur les traces de ceux qui ont fui l'Italie pendant près d'un siècle. Pourquoi ont-ils immigré? Quel chemin ont-ils emprunté? Et surtout, que nous ont-ils apporté économiquement et culturellement? Beaucoup. Vous verrez évidemment les réponses vers 20h30 sur RTL.
Et puis tout à l'heure, un voyage extraordinaire. La taïga, le fleuve Amour, le lac Baïkal, des noms synonymes de grands espaces. Notre invité a traversé la Sibérie en train, près de 5000 km, 500 heures de voyage dans la Russie éternelle et dans les vestiges de l'horreur soviétique.
Et tout de suite, direction l'île à Éclipse.
Les petites îles de Méditerranée ne font que quelques hectares, mais leur patrimoine naturel est sans équivalent.
La curiosité est un vilain défaut.
Une île entre le ciel et l'eau.
RTL.
Les scientifiques les étudient et les protègent, car elles sont l'objet de toutes les convoitises.
Jusqu'à 22h.
Chacune de ces îles a une histoire étonnante.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est l'histoire d'une île pleine de mystères qui apparaît et disparaît au fil du temps et au fil de l'eau. Forcément, une véritable énigme que nous allons tenter de résoudre avec notre invité, écrivain Bruno Fellini. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Bruno.
Cette île à Éclipse, c'est son vrai nom?
Non, c'est le nom que je lui ai donné. C'est un clin d'œil avec un roman de Jules Verne qui s'appelle L'île à Hélice. Autre île capricieuse, difficile à localiser. Mais c'est une bonne façon, il me semble, de caractériser cette île à laquelle il manque un caractère qu'on retrouve dans les autres îles, c'est-à-dire la permanence, la solidité. Là, c'est une île capricieuse, elle s'éclipse.
Elle est tellement capricieuse qu'elle n'a pas qu'un prénom. Elle se fait appeler autrement, cette île.
Oui, il y a une douzaine de noms au total parce que chaque fois que quelqu'un la voit, il la baptise ou il la rebaptise. Et en particulier, il y a trois noms importants. L'île Julia, ça c'est le nom français. L'île Ferdinandea, toute la littérature italienne renvoie à ce nom-là. Et l'île Graham pour les Britanniques.
Alors, où se situe cette île à Éclipse, qu'on appelle nous français l'île Julia, et pourquoi est-elle si particulière?
Alors, nous sommes en Méditerranée, au sud de la Sicile, pas très loin de Malte, c'est-à-dire, et j'insiste là-dessus parce que c'est important pour la suite, évidemment, nous sommes dans une partie hautement stratégique. Si les Anglais, à un moment, se sont installés à Malte, ça n'est pas pour rien. C'est parce que celui qui verrouille le passage entre la Méditerranée orientale et la Méditerranée occidentale commande véritablement toute la navigation en Méditerranée. Donc, une île à cet endroit-là qu'on pourrait occuper, fortifier, aurait un intérêt naval de tout premier plan.
Et alors elle est particulière, pourquoi? Il faut l'expliquer, c'est un phénomène quoi, sismique?
Oui, en fait c'est un volcan sous-marin. Donc figurez-vous une sorte de montagne qui est sous les eaux et dont la pointe ne serait qu'à quelques mètres de la surface. De temps en temps il y a une éruption, il y a une poussée et hop, la pointe apparaît. Il y a un gros tas de cendres par-dessus, de cendres chaudes, et ça fait une île. Et puis au bout de quelques heures ou de quelques jours ou de quelques mois, ça dépend, eh bien tout ça se dissipe, hein, les cendres sont enlevées par les vagues, par l'action du vent, et il n'y a plus d'île. C'est donc une île qui apparaît et qui disparaît. Il y a au moins 8 moments dans l'histoire où on a vu cette île sortir et on l'a vu disparaître.
Et Bruno Fellini, au plus fort de son apparition, cette île Julia, il y avait combien de, je sais pas, de mètres carrés pour pouvoir en profiter, s'y installer?
Alors, a priori,
porter son parasol.
Voilà, un parasol, oui, effectivement. Il faut surtout avoir de bonnes chaussures parce que lorsque l'île sort, le sol est brûlant. Ah oui. Et donc, ça crame les chaussures.
Bon, je ne vais pas y aller tout de suite. Alors.
Voilà. Disons que la plus grosse éruption, puisqu'il s'agit d'éruption en fait, date de 1831. Et à ce moment-là, au moment où l'île sort des eaux, elle est à environ 2 km² de superficie. Donc, ce n'est pas gigantesque, mais c'est déjà considérable. Mais 2 mois après, elle ne fait plus que 4 hectares. Et 2 mois après, elle a carrément disparu.
Alors vous racontez cette histoire, Bruno Fellini, dans ce livre. L'île à éclipse, apparition et disparition d'une terre française. On y reviendra évidemment sur les raisons pour lesquelles on peut dire une terre française. C'est publié chez Biblis Éditions. C'est ça, CNRS, c'est une collection des éditions du CNRS. Vous disiez 1830 et quelques. Moi, j'imagine que pour les marins de cette époque, ça devait être une énigme. Quelles croyances naissent autour de cette île ?
Alors, les marins sont habitués, bien sûr, à ces histoires d'îles capricieuses. Ça n'est pas la seule, hein, à la surface du globe. Il y a, comme cela, des îles fantômes, pour toutes sortes de raisons. Les marins appellent ça des îles de beurre, c'est-à-dire des îles qu'on a vues un jour, qu'on a signalées et qu'on ne retrouve plus, comme si elles avaient fondu au soleil. Alors, il y a plusieurs explications. Parfois, c'est un marin qui a un peu forcé sur la bouteille, il a cru voir une terre et puis il n'y avait pas de terre du tout. Mais parfois, c'est plus sérieux. Ça peut être le dos d'un cétacé, ça peut être des débris flottants, tout un amas de débris végétaux que de loin on a pris pour une petite terre. Ça peut être de la pierre ponce, parce que la pierre ponce flotte. Et puis, ça peut être, bien sûr, alors on a des cas dans l'océan Pacifique, par exemple, mais en Méditerranée aussi, un phénomène volcanique.
Alors, on va raconter l'une de ces apparitions et son effet sur les hommes et les femmes, peut-être qui y étaient aussi, je n'en sais rien. On est en 1831 et l'île Julia émerge à nouveau. Qui est aux premières loges de ce spectacle grandiose ? Un prince.
Un prince qui est sur le littoral sicilien, c'est le prince Pignatelli. Et il faut dire que c'est un prince, mais un prince très instruit et qui a en particulier appris les rudiments de la géologie. Donc il est très intéressé par ce type de phénomène, par l'histoire de la Terre, par la minéralogie. Et puis, évidemment, il n'est pas le seul à constater le phénomène. C'est-à-dire que pendant plusieurs jours, tous les habitants de la côte sud de la Sicile sont terrorisés parce qu'il y a des mouvements un peu étranges. Le ciel est comme voilé de blanc, y compris en plein jour. On a des tonnes de poissons morts qui arrivent sur le rivage.
On se dit que c'est un mauvais présage.
Ah, très, très mauvais présage. Ouais. Imaginez que dans les maisons... certains objets colorés se ternissent, les couleurs se fanent, les couverts en argent noircissent. Donc ça a un côté un petit peu surnaturel, tout simplement parce qu'il y a des gaz qui sont en train de se répandre dans l'atmosphère. Et puis tout à coup, eh bien, il y a cette éruption véritablement spectaculaire, puisqu'elle n'est pas très très loin des côtes. Donc c'est visible depuis les côtes ou depuis un petit bateau. Et donc il faut s'imaginer, quand la lave arrive au contact de l'eau de mer, cela crée ce que les spécialistes appellent des nuées cypressoïdes. C'est-à-dire d'immenses nuages mêlant des gaz chauds et de la vapeur d'eau et qui forment des sortes d'arborescences gazeuses comme ça dans l'atmosphère. C'est extrêmement spectaculaire.
Et c'est un événement tellement spectaculaire qu'on va en entendre parler dans toute l'Europe, jusqu'en France. Et là, les Français vont se dire, tiens donc, on irait bien jeter un œil sur cette île à éclipse. On vous raconte cette expédition française dans un instant sur RTL.
On est bien entre curieux.
Vous écoutez RTL.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
L'île à éclipse, l'île Julia ou l'île Graham, peu importe son nom, elle est capricieuse, elle fait rêver les marins, les romanciers, les puissants qui n'ont jamais cessé de la convoiter. C'est notre invité Bruno Fudigny, écrivain, qui nous l'a fait découvrir dans La Curiosité. On est donc en 1831, Bruno, on continue cette histoire. L'île vient d'émerger avec tout son lot de superstitions qui apparaissent, elles aussi, notamment en Sicile. La France décide d'envoyer un navire à la conquête de ce nouveau territoire. Qui est à bord et quelles difficultés vont-ils rencontrer ?
Alors, ce navire, c'est un brick de guerre qui porte un joli nom, la Flèche, et qui part de Toulon. Donc, c'est bien un navire de la marine. Hein, mais les Français étant malins, ce brick de guerre transporte un scientifique, Constant Prévost, et si éventuellement on est amené à planter le drapeau bleu, blanc, rouge sur cette île, bien sûr c'est pour l'avancement des sciences, c'est pas du tout pour s'en emparer de manière égoïste, c'est pour faire avancer la science géologique.
Et un peintre pour immortaliser la scène, c'est ça ?
Alors le peintre, ça a été un problème. Le géologue, très bien, c'est la couverture de l'expédition, un géologue très brillant, Constant Prévost, qui est d'ailleurs missionné par l'Académie des sciences. La France à l'époque a un roi, Louis-Philippe Ier, roi des Français, qui reçoit Constant Prévost au Palais des Tuileries avant qu'il parte. Donc vraiment, le caractère officiel et le patronage du chef de l'État se manifeste clairement. Simplement, Constant Prévost veut amener avec lui un ami qui est aussi un dessinateur et un peintre, parce que bien sûr, il veut qu'on voit cette île et quelqu'un qui soit capable de la représenter, d'en faire des plans, des vues, des... Et oui, mais il y a un problème. Figurez-vous que dans le budget de l'époque, dans le budget de la marine, il n'y a aucune ligne de crédit.
Ah, déjà pour... à l'époque, c'était comme ça.
Et voilà, la bureaucratie, dans toute sa splendeur, lui répond que malheureusement, on n'a pas prévu de ligne de crédit pour aller peindre les terres nouvellement émergées.
Donc il n'y aura pas de peintre qui
Et donc, alors, on lui propose d'attendre l'année prochaine, le temps que dans le vote de la loi de finances, on ajoute une ligne de crédit. Alors, évidemment, on ne va quand même pas attendre que le monde entier vienne planter son drapeau. Heureusement, le ministre de la marine de l'époque, le comte d'Argout, et le neveu du ministre des Finances, le baron Louis, donc on va s'arranger et le peintre pourra manger à la table des officiers. Mais vous voyez que c'est cette minuscule question en attendant, ça a failli retarder le départ de l'expédition.
Ça se passe comment sur place une fois que l'équipage français est sur ou autour de l'île Julia? Oui. Que se passe-t-il dans les premiers moments?
Alors, l'île est sortie en juillet, d'où son nom français, hein, Julia. C'est l'île de juillet, avec l'ambiguïté, le mois de juillet, et puis la monarchie de juillet, Louis-Philippe. Les Français arrivent sur place fin septembre. Donc il a quand même fallu de bons mois, hein, pour monter l'expédition et arriver. Simplement, lorsqu'on arrive, la terre est encore chaude, l'île est encore en travail, si je puis dire, en mouvement, et en plus, il y a une effroyable tempête. Au moment où le brick de guerre, la Flèche, arrive en vue de l'île Julia, et tout le monde est très ému, hein, de voir cette terre nouvelle, eh bien, il y a une tempête énorme qui se déclenche, donc qui éloigne le navire de cette terre qu'il venait de repérer, et il va falloir en faire trois jours pour effectivement débarquer. Et on imagine ce pauvre Constant Prévost, c'est le moment de sa vie pour un géologue, aller explorer une terre nouvelle, qui est là, cramponné sur le pont du navire, à se prendre les vagues dans la figure, en se disant, mais on va peut-être repartir sans pouvoir mettre le pied.
Et alors, il va planter un drapeau français, alors, ce pas géologue, sur l'île?
Oui, pas tout de suite. Disons que d'abord, on va envoyer un petit canot, on va se rapprocher, on va faire le tour. Et puis, enfin, au bout de trois jours, il y a un moment de temps clément. Et donc, on va pouvoir débarquer. Et là, on plante un panneau, c'est-à-dire une grande planche bleu, blanc, rouge, avec une inscription au milieu, île Julia, le nom des personnes présentes, la date, etc. Deuxièmement, il y a une partie de l'équipage qui monte au point culminant de l'île, hein, c'est-à-dire à presque 70 mètres de haut, et là, on plante un drapeau français. Et puis, le brick de guerre tire 21 coups de canon, hein, pour bien marquer, pour bien notifier au monde que ça y est, là, on a pris possession, c'est français.
Donc, c'est l'île française, ça pose de problème à personne.
Bien, en fait, si.
Ça va durer combien de temps? Ils vont en profiter combien de temps, les Français, de leur île, Julia?
Alors, l'île va rester émergée pendant environ 5 mois. Mais ça, on ne le sait pas sur le moment. Et tout le monde se dit que c'est une île qui est appelée à rester et qui est importante. Sauf que les Anglais font savoir qu'eux-mêmes ont débarqué un mois plus tôt.
Quelle preuve?
Alors justement, il n'y a pas de preuve. C'est là que c'est... C'est-à-dire qu'il est clair que, bien sûr, dès que l'île commence à sortir, les Anglais, qui encore une fois à l'époque sont à Malte, hein. Malte à l'époque est vraiment une colonie britannique, c'est tout près, ils envoient des navires, ils font le tour comme les Français. Et puis un certain capitaine Senhouse prétend avoir débarqué, avoir pris possession. Sauf qu'a priori, lorsque les Français débarquent, moins qu'ils soient d'une mauvaise foi totale, hein, ce qui n'est pas exclu non plus, on ne voit rien. On ne voit pas ni de panneau, ni de drapeau, ni quoi que ce soit qui puisse marquer une prise de possession britannique. Et puis, il y a un élément qui sème le doute aussi, c'est que quand fin septembre les Français débarquent, le sol est encore très très chaud et vraiment tout le monde danse quoi sur la surface de l'île. Donc est-ce qu'un mois plus tôt on pouvait effectivement débarquer? Gros point d'interrogation.
Et les Italiens, ils sont pas en reste, j'imagine.
Non. Alors sachant qu'à l'époque bien sûr il n'y a pas encore un État italien, hein, c'est plusieurs États et l'État le plus proche c'est le Royaume des Deux Siciles et le roi Ferdinand II, d'où le nom italien de Ferdinandea, évidemment est intéressé aussi par cette possession qui est au large de ces terres. Alors, les Italiens sont les premiers à faire le tour de l'île. Évidemment, ils viennent du port sicilien de Sciacca qui est juste en face. Sauf que là, l'île est vraiment brûlante. Alors, ils font un petit tour en barque. Et puis, comme il est absolument impossible de débarquer, les Italiens, qui sont très malins aussi, ont cette idée. Ils prennent une des rames de l'embarcation et ils la jettent sur le rivage.
Ça suffit pour dire c'est notre terre?
Alors, de leur point de vue, oui. Évidemment, comme prise de possession, c'est un peu léger. Et puis, vu la chaleur du sol à ce moment-là, on peut supposer que la rame s'est consumée. Donc là
aussi, il n'y a pas eu de bataille navale, quand même, rassurez-nous.
Alors sur le moment, non, parce que les trois navires arrivent à des moments différents. Mais quand toutes ces informations remontent dans les capitales, et effectivement, là, le roi des Français, le Royaume-Uni, le royaume des deux Siciles, commence à se gendarmer, quoi.
Mais c'est là
il y a un véritable enjeu.
Mais c'est là que l'île Julia, elle, va leur jouer un tour à tous ces hommes qui veulent la posséder.
Exactement, elle disparaît. Elle est insaisissable. Au moment où les choses se gâtent, alors il y a un texte d'Alexandre Dumas extrêmement drôle où il imagine les différentes flottes en train d'appareiller, en train de se préparer à combattre, et à ce moment-là, hop, oui, il y a plus d'enjeu. L'île qu'on voulait se disputer a tout simplement disparu. Elle est rentrée sous les eaux. Elle est rentrée sous les eaux pour un certain temps.
Mais son histoire n'est pas terminée. Loin de là, Bruno Fellini, vous allez continuer de nous raconter cette histoire passionnante. Avec, tiens, une question à laquelle vous allez répondre juste après la pause. Alex sur Twitter nous demande, beaucoup d'îles sont formées à partir d'éruptions. Pourquoi l'île Julia ne se stabilise pas? Peut-être allez-vous à la réponse. À tout de suite sur RTL.
La curiosité. Vous écoutez RTL.
Un îlot parmi tant d'autres pareils.
La curiosité est un vilain défaut.
Sur ce bateau, cet îlot au milieu de l'eau,
ça y part les vagues.
Jusqu'à 22h.
C'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Dans la curiosité, on aime les îles, les îliens, les ultramarins. On aime partir en voyage. Et là, on part au large de la Sicile sur une île qui apparaît et disparaît. Elle a été disputée par les Anglais, les Français, les Italiens. Elle a passionné les Européens au 19e siècle et elle continue de nous passionner et de fasciner. Notre invité, l'écrivain Bruno Fellini, qui nous fait découvrir les mystères et les caprices de cette île. Il y a Alex qui nous écoute sur RTL et qui nous a écrit sur Twitter et qui nous demandait, beaucoup d'îles sont formées à partir d'éruptions. Pourquoi l'île Julia ne se stabilise pas?
Un jour peut-être se stabilisera-t-elle. Pour le moment, à chaque éruption, la partie émergée, ce sont seulement des cendres qui sont vomies par le volcan. Et c'est meuble, c'est friable, donc au bout de quelques mois, c'est dispersé par l'action du vent et des vagues. Le jour où c'est de la lave qui émerge et qui sèche, eh bien ça sera
ça
une île volcanique comme les autres îles volcaniques de Méditerranée.
Aujourd'hui, si on navigue en bateau autour de l'île Julia, on voit quoi?
Aujourd'hui, on ne voit rien. Hein. On peut passer au-dessus de l'île Julia sans rien voir, mais juste en dessous, eh bien, il faut se figurer comme un pic sous-marin dont la pointe extrême n'est qu'à quelques mètres, selon les derniers relevés, 5 mètres, 8 mètres de la surface des eaux. Et ce volcan sous-marin, ça on l'a découvert en 2006, fait lui-même partie d'un énorme massif volcanique que les scientifiques ont baptisé Empédocle. Et donc peut-être qu'un jour, c'est même tout Empédocle qui se soulèvera et coupera la Méditerranée en deux.
Voilà. D'où l'importance d'avoir son drapeau planté éventuellement dessus l'île. La éclipse, apparition et disparition d'une terre française. C'est le titre de votre livre, Bruno Fellini, publié aux éditions du CNRS, la collection Biblis. Elle vous inspire, elle a inspiré beaucoup d'écrivains, beaucoup de romanciers, cette île.
Oui, et pas les moindres. Elle a inspiré Jules Verne, un roman pas très connu mais assez étonnant qui s'appelle Mirifiques aventures de Maître Antifer. C'est une histoire de course au trésor, mais évidemment, quand vous cachez un trésor dans une île qui apparaît, qui disparaît, ça rajoute quelque chose. Ouais. Et puis Jules Verne, en faisant évidemment ce travail, rend aussi hommage à ses maîtres, c'est-à-dire à Alexandre Dumas, qui lui est venu au-dessus de l'île Julia et qui, dans un de ses livres, Le Spéronard, évidemment, il ne peut pas raconter qu'il a foulé le sol de l'île Julia puisqu'elle n'est plus là. Donc, il imagine qu'il y a une espèce de salut de l'île Julia, qu'il y a une espèce de bouillonnement. Il y a des bulles qui viennent du fond de la mer et qui saluent son passage. Et puis, outre Alexandre Dumas, Walter Scott, le grand écrivain écossais. Mmh. Il se trouve que Walter Scott, peu de temps avant de mourir, fait une croisière en Méditerranée exactement dans les parages. Et lui, va carrément aller sur l'île Julia. Il faut imaginer ce vieil homme qui ça va être son dernier caprice. Il est sur un bateau de la navire de la marine royale britannique et il va se faire déposer et il va se faire transporter à dos de matelot sur le point culminant de l'île. Ça sera sa dernière joie.
L'île Julia qui traverse l'histoire des hommes. Forcément, là on est en 1987. L'île Julia a disparu sous les eaux depuis plus de 50 ans. Elle continue pourtant de faire parler d'elle. Qu'est-ce qu'il se passe cette année-là, 1987?
Eh bien, elle est bombardée. Elle est bombardée.
Mais elle est visée.
Elle
a disparu.
Elle est visée, mais elle est sous l'eau. Elle est visée, tout à coup, le silence des profondeurs est considérablement troublé par un bombardement aérien. Vous avez une base de l'OTAN en Sicile, et on bombarde cette île parce qu'on l'a prise pour un sous-marin libyen. On est en pleine crise, vous savez, entre Reagan et Kadhafi. Ouais. Et à ma connaissance, la France n'a pas protesté contre le bombardement de ce territoire qui est un petit peu à elle quand même, même s'il est tout sous-marin.
Des excuses sont présentées quand même. Non, reste là.
On reste là sur le moment.
Et on continue d'avancer. 2002, il y a un article du Canard Enchaîné qui défraye la chronique et qui parle de cette île Julia, de cette île à éclipse.
Alors oui, au départ, c'est un article qui parle de cette île d'un point de vue historique. Et puis, il y a une boutade à la fin de l'article. C'est une suggestion. Finalement, pour que l'île ressorte indubitablement française, il est suggéré que des plongeurs aillent déposer sous l'eau un drapeau tricolore étanche et inifugé. Comme ça, si l'île ressurgit, elle ressurgit avec le drapeau français.
Oui. Alors, bonne idée.
Bonne idée, mais oui. Très vraisemblablement un gag. Sauf qu'un mois plus tard, les Italiens le font. Vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des plongeurs qui partent de Sicile, qui vont sur cette île Julia, si j'ose dire, puisqu'elle est sous l'eau, et qui déposent un drapeau italien, une plaque, de façon à marquer leur attachement aussi à ce territoire à venir.
Mais alors aujourd'hui, Bruno Fellini, vous dites dans votre...
Bon, allez à nous.
Dans votre apparition et disparition d'une terre française, c'est le sous-titre du livre. Pourquoi peut-on dire qu'elle est française, d'après vous?
Parce qu'en 1831, il y a eu une prise de possession, ça c'est indéniable. Donc en fait, c'est un possible
c'est
contentieux territorial.
Marquant, ouais.
Ouais. Après, c'est sans doute un dossier très très tordu, très compliqué, parce que en 1983, il y a eu une convention dite de Montego Bay sur le droit de la mer, qui a donné une définition précise de ce qu'est une île. Et normalement, une île, elle a pour caractéristique, entre autres, la permanence. C'est-à-dire que si l'île ressortait aujourd'hui, eh bien, les Italiens, les Britanniques pourraient prouver, peut-être, que ça n'est pas la même île, alors que c'est le même volcan au même endroit.
Mais parce qu'elle ne fera pas exactement la même
exactement,
taille. La même...
Exactement. D'accord. Donc là, la question est de savoir si jamais demain l'île avait la fantaisie de ressurgir, est-ce toujours l'île Julia, ou est-ce qu'on repart à zéro et que le premier arrivé qui plante son drapeau est le propriétaire de l'île nouvelle?
Oui, mais Bruno Fellini, est-ce qu'elle est encore stratégique, cette île? Est-ce qu'elle est importante ou c'est notre Madeleine de Proust, on se battrait pour le plaisir de l'histoire?
Non, les îles c'est important, et puis vous avez vu qu'en Méditerranée il se passe bien des choses, celui qui contrôle les petites îles qui sont entre l'Europe et l'Afrique évidemment a un pouvoir important, sans compter la dimension comment dirais-je, de la zone économique exclusive. Il y a aussi un enjeu économique qui préoccupe beaucoup les Siciliens, parce qu'on est dans une zone où on pêche le corail rouge, donc pour de multiples raisons, politiques, navales, économiques, ça a un intérêt une île à cet endroit-là.
Merci infiniment.
Merci
Bruno
beaucoup.
Fellini, cette très belle histoire poétique, politique aussi, à lire. L'île à éclipse, apparition et disparition d'une terre française. C'est publié chez CNRS Édition. Et puis on a hâte de vous retrouver. Bruno Fellini, on ne compte plus vos venues.
Écoutez, je viens toujours avec plaisir. J'apparais ici plus souvent que l'île Julia en Méditerranée, tant mieux.
Vous êtes notre historien, écrivain à éclipse, mais on adore.
Merci Bruno, à très bientôt.
Vous écoutez RTL.